Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. On est toujours en direct. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Beaucoup de choses encore ce soir, à commencer par Gabriel Attal qui a dû s'empresser d'aller démentir à l'Assemblée nationale cette fausse rumeur qui a circulé toute la journée, selon laquelle le gouvernement envisageait d'aller taper, disons-le comme ça, dans le livret A et l'assurance vie pour récupérer quelques milliards. C'est faux, mais on va reparler avec nos experts, bien sûr, qui reviennent dans un quart d'heure.
Oui, et puis on parlera aussi avec eux de Taïwan, le leader mondial des semi-conducteurs, TSMC, qui a interrompu brièvement sa production après le séisme qui a frappé l'île la nuit dernière. Alors brièvement, à tel point que le monde s'interroge sur sa dépendance. Et puis on parlera aussi de cette loi pour booster encore l'attractivité de la place de Paris, qui est arrivée à l'Assemblée aujourd'hui. Et enfin, cette polémique sur les polluants éternels. Il y avait quand même 600 salariés de SEB devant l'Assemblée tout à l'heure.
Alors, qui sera avec nous pour parler de tout ça? Nathalie Janson va revenir, Bruno Coquet va revenir, l'avocat Jonas Sadat sera avec nous et le journaliste Guillaume Duval. Ça fait beaucoup de monde ce soir.
Oui, ça nous promet un débat animé.
Ou en couleur aussi, pour le dire comme ça. Voilà, on est ensemble jusqu'à 20h, nous, bien sûr.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance.
Good Evening Business, le journal.
Donc ce séisme qui a frappé Taïwan la nuit dernière, le dernier bilan, je vous le disais, fait état d'au moins 9 personnes tuées et de plus de 900 blessés. La conséquence économique, c'est que plusieurs entreprises ont bouleversé quelque peu leur production. TSMC, leader mondial des semi-conducteurs, lie d'avoir interrompu brièvement. Le terme brièvement inquiète, cela dit, pas mal d'industriels. Marion Zipfel est la correspondante de BFM Business en Asie.
TSMC compte 12 sites de production à Taïwan et même si toutes les fabs, les usines de fabrication des semi-conducteurs sont situées à plus de 4 heures de Hualien, la zone la plus fortement touchée par le séisme, tous les sites ont connu des perturbations, ont connu des interruptions plus ou moins longues de la production afin d'inspecter les équipements, afin d'évaluer l'impact du séisme sur la production. Selon certains experts, ces perturbations pourraient d'ores et déjà avoir des impacts sur toute la chaîne logistique des semi-conducteurs en Asie. De façon plus général, ce séisme illustre une nouvelle fois la problématique de la concentration de la production des semi-conducteurs à Taïwan. Taïwan vulnérable sur le plan géophysique, vulnérable sur le plan géopolitique. TSMC, qui contrôle à lui seul près de 60% du marché mondial des semi-conducteurs, entend bien rester à Taïwan, mais se développe à l'international avec des usines aux États-Unis, au Japon et une première implantation en Europe à Dresde, avec un début de chantier prévu pour le premier semestre 2024.
Marion Zipfel, la correspondante de BFM Business en Asie. En France, je vous le disais, cette chasse aux milliards qui commence sérieusement à crisper les esprits. Il y a eu une grosse rumeur aujourd'hui que Gabriel Attal a dû s'empêcher d'aller démentir à l'Assemblée. Rumeur selon laquelle le gouvernement entendait taper dans le livret A et l'assurance vie pour récupérer quelques milliards. C'est faux, archi-faux. Écoutez Gabriel Attal.
C'est dans cette même logique que nous allons travailler avec plusieurs parlementaires de la majorité qui accompagneront le gouvernement dans les prochaines semaines, dans cette même logique de taxation des rentes inframarginales d'énergéticiens ou de profits indus liés à la spéculation dans le cadre de l'inflation. Pas pour aller chercher, comme je peux le lire ici ou là, le livret A ou l'épargne des Français. La vraie différence entre nous et les oppositions dans cet hémicycle, c'est que nous ne nous opposerons jamais aux Français qui travaillent, aux fruits de leur épargne, aux Français qui ont travaillé toute leur vie. C'est ça la vraie différence entre vous et nous.
Voilà Gabriel Attal tout à l'heure à l'Assemblée. Alors question, où le gouvernement va-t-il aller chercher ces quelques milliards, peut-être entre autres en taxant les rentes, comme disait le Premier ministre. En revanche, toujours pas question d'augmenter les impôts. Bruno Le Maire l'a encore redit ce matin dans une tribune publiée dans le journal Les Échos, je refuse de céder à la facilité coutumière des temps difficiles. Voilà ce qu'écrit notamment aujourd'hui encore le ministre de l'Économie et des Finances. 19h05, alors pendant que Gabriel Attal s'agitait dans l'hémicycle, il y avait aussi beaucoup de monde devant l'Assemblée. Bonsoir Nathan Cocampo. Il y avait environ 600 salariés de SEB venus manifester contre une proposition de loi qui vise à faire disparaître ce qu'on appelle les polluants éternels. C'est ça, Nathan ?
Oui, si la loi passe, 3000 d'entre nous seront au chômage. Voilà le message martelé aujourd'hui par les salariés et syndicats présents devant l'Assemblée nationale. Pointez du doigt donc ces PFAS, ces polluants éternels utilisés pour produire des poêles dans l'usine du Rumi, notamment en Haute-Savoie. Des poêles principalement destinées à l'export. Derrière les poêles, nos emplois. L'écologie, oui, nous emploie aussi. C'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes des manifestants. Les syndicats et salariés l'assurent, la production est respectée. De l'environnement.
Tefal a fait un bond en avant au niveau technologique. Et tous les produits qu'il utilise aujourd'hui, ils ont une innocuité totale. Pour la santé, c'est reconnu par des scientifiques.
Je vais très bien, moi, il n'y a pas de souci. Moi, il me reste 10 ans à faire avant ma retraite. Moi, je me vois mal à 52 ans aller pointer au chômage et essayer de trouver du boulot, quoi.
Même son de cloche pour la direction de Tefal et SEB. Stanislas de Gramont, directeur général du groupe, s'appuie sur la science pour défendre sa production.
Vous avez un certain nombre d'autorités internationales qui sont censées d'ailleurs protéger les consommateurs et les citoyens, qui ont émis un point de vue scientifique sur ces sujets-là. Ce point de vue est balayé d'un revers de la main sur des questions d'amalgame. Ah oui, mais comme on ne sait pas, on va mettre tous les PFAS. Ben nous disons non, parce que nous pensons qu'il y a une autre manière de faire la loi qui fait appel à la science, qui fait appel à la concertation, qui fait appel à la raison et au bon sens. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui.
De nouvelles études européennes sur les PFAS sont attendues dans quelques mois. Le projet de loi sera présenté demain à l'Assemblée nationale et suscite déjà la réserve du gouvernement.
Bon, on suivra ça bien sûr avec intérêt. Merci beaucoup Nathan. Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business. Pendant ce temps, l'Europe annonce qu'elle va lancer toute une série d'enquêtes contre des acteurs chinois. Du photovoltaïque, cette fois des géants que Bruxelles soupçonne évidemment d'avoir bénéficié de très larges subventions susceptibles d'avoir faussé bien sûr la concurrence. Et puis dans l'actualité des entreprises, CMA-CGM va rejoindre Renault et Volvo comme membres fondateurs de Flexis, entreprise dédiée à la production de véhicules électriques utilitaires légers. Flexis d'ailleurs qui, ça se précise, va lancer début 2026 une camionnette électrique dite polyvalente. Mais Luca De Meo, le DG de Renault, en a dit un peu plus à Justine Vassogne ce midi. Écoutez.
On présente une initiative ensemble qui tourne autour d'un produit révolutionnaire qui est Flexivan, qui est un nouveau projet qu'on a mis ensemble depuis maintenant deux ans et demi, et qui amènera, je pense, à complètement transformer le segment des véhicules utilitaires, surtout pour les livraisons de last mile, comme on appelle, donc plutôt le côté urbain. Donc on fait une voiture avec qui est née pour être électrique, avec un skate électrique très modulable, avec une nouvelle architecture électronique, avec la voiture qui est connectée au cloud et un concept de carrosserie aussi qui donnera beaucoup de flexibilité dans la production. Et la voiture sera produite à Sandouville comme on a annoncé vendredi.
Voilà, Luca De Meo, le directeur général de Renault, aujourd'hui au siège du groupe du côté de Boulogne-Billancourt. 19h09 sur BFM Business. On retourne sur les marchés.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h13, rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Qui nous
rejoint
évidemment jusqu'à 20h, puis nos experts qui sont toujours là, Nathalie Janson qui est revenue, professeure à Nouméa Business School. Rebonsoir Nathalie, rebonsoir Bruno.
Rebonsoir.
Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Guillaume Duval qui est avec nous, bonsoir Guillaume. Bienvenue, ancien rédacteur en chef d'Alternatives économiques. Et Jonas Haddad, Jonas bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président et porte-parole de la Fondation Concorde. Alors on a beaucoup de choses ce soir, à commencer par cette chasse aux milliards qui commence légèrement crisper les esprit, Audrey. Tous les jours, désormais, il y a des ballons d'essai, il y a des propositions qui tombent. Il y a une sacrée rumeur qui a tourné il y a quelques heures, quand même.
En effet, rumeur selon lesquelles le gouvernement entendait taxer à la fois les livrets A et l'assurance vie, pour faire rentrer évidemment des milliards, mais démenti formellement de la part de Gabriel Attal tout à l'heure à l'Assemblée. On écoute tout de suite et on en débat ensuite.
C'est dans cette même logique que nous allons travailler avec plusieurs parlementaires de la majorité qui accompagneront le gouvernement dans les prochaines semaines, dans cette même logique de taxation des rentes inframarginales d'énergéticiens ou de profits indus liés à la spéculation dans le cadre de l'inflation. Pas pour aller chercher, comme je peux le lire ici ou là, le livret A ou l'épargne des Français. La vraie différence entre nous et les oppositions dans cet hémicycle, c'est que nous ne nous opprendrons jamais aux Français qui travaillent, aux fruits de leur épargne, aux Français qui ont travaillé toute leur vie. C'est ça la vraie différence entre vous et nous.
Bon, au moins c'est clair, le livret A ne sera pas un levier pour le gouvernement dans cette chasse aux milliards. On a quand même un record historique, 420 milliards d'euros, c'est une sacrée cagnotte. Alors ça s'explique par deux faits concomitants, à la fois c'est la surépargne des moments Covid, de la pandémie, et puis de la hausse des taux de rémunération. Mais donc, si le gouvernement n'y touche pas, si le gouvernement se met comme ligne rouge de ne pas augmenter les impôts, que va-t-il faire? Où sont les marges de manœuvre? Jonas Haddad.
D'abord, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce terme de rente que le gouvernement essaye d'installer. Vous voyez, c'est comme souvent.
J'ai eu le débat avant 19h. C'est qu'est-ce qu'une rente? Voilà.
Exactement.
Pour les super profits.
Vous voyez, je suis absolument pas léniniste, mais Lénine disait faites rentrer les mots, vous ferez rentrer les actions. C'est-à-dire que quand déjà on déplace le champ sémantique et qu'on parle de rente, c'est dingue. On parle de livret A, enfin, quand quelques personnes mettent pour les enfants de l'argent sur le livret A, parce que c'est beaucoup ça, c'est pas. Honnêtement, les grands financiers ne mettent pas leur argent sur le livret A. Quand on met un peu d'argent sur l'assurance vie pour échapper à l'enfer fiscal, je pense pas que c'est les grands financiers qui le fassent. Quand on met, quand on a un petit patrimoine et qu'on loue un petit peu de foncier, je pense pas que ce soit de la rente. La réalité, c'est que ce serait vraiment une rupture, j'allais dire ontologique, avec la doctrine macroniste qui consistait à dire à un moment, il faut que le capital paye davantage, puisqu'on est un des pays dans lequel le capital est le plus taxé et dans lequel il y a le plus de prélèvements obligatoires. Donc si on a gardé l'impôt sur la fortune immobilière, mais qu'on a baissé la flat tax, mais qu'on a tout fait pour redonner un peu d'attractivité au pays, et que là, on considère que tout ce qui est un peu de l'épargne et de la rente, je ne sais plus ce qui restera en fait.
Mais justement, en l'occurrence, ce que le gouvernement dit, c'est on n'y touchera pas.
Oui, mais alors on touchera à quoi?
Eh bien, c'est la question que je vous pose, Guillaume Duval.
Ils toucheront au SMICAR, comme d'habitude.
Avec le micro en face de toi, Guillaume.
Oui. Bon. En ce qui me concerne, je ne trouverais pas gênant, enfin pas scandaleux qu'on touche effectivement au livret A et à l'assurance vie, parce que contrairement à ce qui vient d'être dit, c'est un placement qui est très utilisé par les riches, par ceux qui ont le plus de patrimoine.
Ils sont sacrément bêtes alors. Parce que le livret, il y a un rendement, mais c'est le plus bas dans les rendements.
Alors 3%
de rendement. Par rapport à l'inflation,
c'est utilisé aujourd'hui par des gens qui ont du patrimoine financier en particulier. Donc je ne vois pas pourquoi, dans un contexte où on a un excès d'épargne en France, où on a une situation budgétaire très difficile, on n'y toucherait pas. Par ailleurs, effectivement, gouvernement va faire, c'est qu'il va effectivement taxer davantage les pauvres. Il a déjà commencé avec les chômeurs, a annoncé la couleur avec les chômeurs. Il l'a déjà fait plein de fois depuis 2017 sur le logement, sur tout un tas de mesures. Il a toujours ciblé les pauvres parce que les pauvres ont cet avantage, c'est qu'ils votent relativement peu. Ils votent moins que les retraités, ils votent moins que les riches. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par démagogie, vis-à-vis de sa base sociale de riches et de retraités, ce gouvernement préfère taper sur les autres.
Guillaume, sauf qu'en réalité, le gouvernement l'a dit aussi, augmenter les impôts, notamment sur les classes moyennes, c'est une ligne rouge qui ne sera pas franchie.
Oui, mais c'est de la démagogie. Ce gouvernement s'est comporté comme des gougnaviers. Ils ont géré les finances publiques. Ils ont fait n'importe quoi depuis 7 ans et ils la ramènent maintenant en prétendant donner des leçons de bonne gestion, alors qu'ils ont creusé les déficits et qu'ils ont fait exploser la dette comme seul Nicolas Sarkozy l'avait fait avant eux.
Bruno Coquet, un mot là-dessus. Ouais.
Le ministre des Finances nous engueule parce qu'il a été impécunieux pendant des années. Bon, donc, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est où il veut aller. Donc, aujourd'hui, on est le pays qui prélève le plus, on est le pays qui dépense le plus. On a un problème d'efficacité, il le dit dans son article, mais il ne dit rien...
Sur la méthode.
Sur la méthode. Son sujet, c'est de faire moins avec mieux. C'est pas de défeuiller la marguerite. Un coup, on dit, je favorise les gens qui travaillent. Le lendemain, je vais pas taxer le livret A. Le surlendemain, je vais faire une taxe sur les rentes
infra-marginales. Non, mais là, on est dans une guéguerre politique. Voilà, on est dans une guéguerre politique, enfin, Guillaume.
Le problème, c'est que... Non, mais qu'il y a quand même une espèce d'urgence économique.
Ah oui.
Donc, le point, c'est que la guéguerre politique, c'est sympa, mais la guéguerre pourrait se faire non pas autour de lignes rouges énoncées à la suite les unes des autres, mais autour d'une ligne de conduite claire, Et puis voilà, on y va. Mais là, en fait, on tourne en rond avec des arguments, des formules. Mais on, en fait, sur le fond, on n'avance pas.
Alors, un projet de société, en fait, c'est ça qui nous manque, Nathalie Jean.
Oui, oui, tout à fait. Enfin, je pense que, bon, contrairement à Guillaume, je serais moins. Je ne pense pas qu'il défait tant que ça de cadeaux aux riches, ou parce que de toute façon, c'est toujours. Bah, oui, enfin, c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas de riches, vous n'avez pas d'activité. Donc bon, faire tourner un pays avec des pauvres, je ne pense pas que ça réussisse non plus. Mais après, on peut toujours essayer. Je pense pas que la richesse, elle a besoin d'être là pour pouvoir permettre le développement de projets entrepreneuriaux. Donc voilà, donc c'est pas en taxant et en faisant un effet repoussoir qu'on peut arriver à avoir un pays qui soit en fait dynamique. Donc je pense qu'il faut quand même je dis pas que tout est parfait, mais en tout cas de ce point de vue là c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Je pense que c'était quand même la grande, voilà, s'il y a un truc qui était clair dans la politique de Emmanuel Macron depuis le début, c'était ça. Donc je pense que,
alors, à part la CDAE qui a été un petit coup de canif,
voilà,
dans ce contrat
ça.
De confiance,
mais bon, je pense que là au moins il y avait une ligne directrice. Ouais, il y a toujours eu cette ligne directrice. Effectivement, moi ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas une ligne directrice dans le pendant, c'est-à-dire du côté dépenses. C'est-à-dire, quand on veut effectivement stabiliser l'environnement fiscal pour essayer d'avoir un effet d'entraînement, il faut aussi, d'un autre côté, se dire avec les recettes que j'ai, qu'est-ce que je veux faire. Et là, on n'a pas tellement eu, enfin, je veux dire, je trouve que ça a été un peu court sur le déploiement de ce volet.
Le problème, c'est qu'on disait tout ça, cette séquence est phagocytée, un, par le verdict des agences de notation en quelques semaines, et une espèce de guéguerre politique au sein même de la majorité, au sein du gouvernement.
Oui, mais dans la même journée, vous imaginez.
Ah ben, ça fait quelques jours.
Là, la tribune du ministre de l'économie et le matin, le premier, là, juste après.
Oui. Alors on y vient.
Ça me fait penser beaucoup. Je ne sais pas si vous avez tous en souvenir ce mécanisme-là, la TVA sociale, où à l'époque ça avait coûté énormément, même en nombre de députés à la majorité de l'époque, puisque
Quand Bourlot fait sa boulette
face à Fabius. Et là, on se pose la question. Deuxièmement, c'est raison, non seulement il y a des totems pour le gouvernement, mais il y a aussi des totems pour les Français. Les Français sont très attachés à leur livret A, à l'assurance vie. Et contrairement à ce que vous dites, monsieur, dans une vision très manichéenne, je trouve, et c'est pas les pauvres et les riches, c'est notamment les classes moyennes qui ont une approche assez. C'est le patrimonial de base. Mmh. Si vous voulez, c'est le starter pack de quelqu'un qui veut mettre un petit peu d'épargne pour ses enfants. Et je pense qu'y toucher, et c'est ça qui est paradoxal dans ce que vous écriviez tout à l'heure, d'un côté, vous dites, le livret A, c'est quelque chose qui est utilisé pour les riches. Et dans la même phrase, vous dites, finalement, ce gouvernement, il taxe les pauvres. Je n'ai pas compris, là.
Bon, Guillaume. Droit de réponse. Guillaume Duval.
Justement, il ne va pas y toucher. C'est pour ça qu'il va préférer taxer une fois de plus les pauvres, d'une manière ou d'une autre, en leur supprimant notamment des services publics. Les services publics, c'est les patrimoines des pauvres, de ceux qui n'ont pas de patrimoine, et c'est à ça qu'on va toucher une fois de plus. Oui.
Mais quoi,
on va dégrader encore l'éducation, on va dégrader encore la santé. Le pire, c'est que ça ne servira même pas à avoir davantage de dynamisme économique, parce que si les gens sont malades et si les gens sont mal éduqués, il n'y aura pas non plus d'entrepreneurs et il n'y aura pas non plus de capitaux étrangers qui viendront en France. Ce gouvernement fait une fois de plus n'importe quoi, comme depuis 7 ans.
Alors les impôts, justement. Alors Bruno Le Maire qui est au milieu de tout ça, c'est pour ça que je parle de petite guéguerre au sein de la majorité qui persiste signe. Donc tribune ce matin dans le journal Les Échos, on va la voir si vous nous regardez à la télévision. Pourquoi nous ne montrons pas les impôts? Drôle de justice, écrit Bruno Le Maire, dans un pays où 10% des contribuables payent les 3/4 de l'impôt sur le revenu, où la contribution exceptionnelle sur les revenus de 2011 est toujours en place depuis 13 ans. Je refuse de céder à la facilité coutumière des temps difficiles. Nous n'augmenterons pas les impôts. Voilà, c'est dit, c'est répété,
voilà,
c'est pleinement assumé.
Exactement, c'est clair. Mais après, il faut aussi voir ce qui fonctionne. Alors, je mettrai évidemment à Guillaume. Quand on voit que les licornes françaises, donc une licorne, c'est une start-up, une entreprise qui est valorisée à 1 milliard de dollars et plus, aucune n'a quitté la France. Et ça, c'est bien par rapport à la politique de l'offre qui est mise en place depuis 7 ans.
Aujourd'hui, enfin, la France a toujours été, en fait, malgré tout ce que les gouvernements successifs ont pu dire, relativement attractive pour le capital étranger. Elle a toujours été.
Elle a toujours été
un des points d'atterrissage principaux en Europe du capital étranger. Donc c'est pas très nouveau. Après, pour que ça reste le cas, il faut effectivement investir plus dans le logement, investir plus dans l'éducation, investir plus dans la santé, parce que c'est quand on a un environnement de ce type-là qu'on a des entrepreneurs.
Et les pays
qui sont les plus dynamiques sont aussi ceux où en réalité les inégalités sont les plus faibles parce que tout le monde est bien éduqué,
donc bien soigné. Je pense pas que ce soit le pays des inégalités.
Non mais je veux vraiment vous faire
les États-Unis sont pas dynamiques, ils sont au bord de la guerre civile en permanence.
Je veux vraiment vous faire aucune offense, mais je regrette vraiment que mes professeurs d'économie à l'époque au lycée m'aient imposé de lire Alternative économique, parce que votre analyse économique là elle est digne d'un cours de crypto marxisme d'il y a 100 ans, quoi. Je veux dire, en matière de dépenses éducatives, on est le pays en Europe qui dépense le plus en pourcentage.
Non.
C'est le premier. Bah, ne me dites pas non.
Par élève.
C'est le premier budget de l'État.
Jeunes, effectivement.
Alors, on a une preuve sur le plateau.
Et pourtant, on chute d'un point de vue de PISA. Donc, la preuve, c'est que ce n'est pas possible.
Les payons le plus
sur le logement, c'est l'étouffement réglementaire qui produit la rareté et donc qui produit l'impossibilité de se loger. Et donc, en fait, excusez-moi, mais vous mélangez des sujets qui ont attrait à des services publics ou des services sociaux, je dirais, avec des rentes qui permettent l'attractivité. Enfin, dernier point, ce que vous dites par rapport à l'attractivité est juste depuis une politique effectivement qui a été menée depuis quelques années, parce que on a inversé un trend. Et le chiffre le plus marquant, monsieur, vous devriez peut-être vous en inquiéter, c'est que notre industrie est passée en 40 ans, on fête les 50 ans de la mort de Pompidou, de 20 à 10% du PIB.
Oui, c'est de la faute des énarques et des polytechniciens, oui, c'est vrai. Et
mais attendez, là, vous avez un discours qui est plus démagogue que le démagogue du coin. Là. C'est la destruction de notre parc industriel.
Nathalie,
Bruno, ensuite,
évidemment. Avec votre casquette à la fois de prof et d'économiste.
On paye beaucoup moins les profs en France qu'en Allemagne, ça c'est une réalité.
Non, mais c'est parce qu'on a une administration pléthorique au niveau de l'éducation nationale.
On met pas l'argent sur les...
Voilà, on met pas l'argent là où il faut.
On met l'argent sur le non éducatif.
Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on dépense beaucoup, mais comme elle part beaucoup dans les structures et pas en bas pour ceux qui enseignent, forcément, on se retrouve avec un retour sur, une éducation qui nous coûte cher par rapport en fait à ce qu'elle délivre comme efficacité en termes d'apprentissage et d'encadrement des élèves. En plus, je pense que justement, on n'arrive pas à réformer. Et là, je crois que les derniers épisodes ont été assez emblématiques. On n'arrive pas à réformer cette éducation nationale qui est trop grosse et en plus les rares poches de concurrence qu'il y a pu avoir pour essayer quand même de faire un peu bouger tout ça, qui était le secteur privé sous contrat. Eh bien, en fait, il y a un rapport qui le démonte un peu. Et je trouve que c'est vraiment faire un procès d'intention à quelque chose qui, finalement, je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est quand même mieux d'avoir plusieurs modèles et de pouvoir choisir et qu'effectivement, on est... Moi, j'enseigne dans une école de commerce. On a bien vu la vertu des écoles de commerce par rapport aux universités. Ouais. On a bien vu que grâce à ça, il y a des segments, enfin, en tout cas, il y a des pans d'enseignement de l'université qui se sont remués pour essayer, effectivement, de
réagir. Comment on a décalé le débat là.
Donc,
c'est ça le problème. Hausse d'impôts, on est pas
Pardon, monsieur.
Oui, justement, si on en revient aux hausses d'impôts, bonne idée ou pas. Bruno Coquet, on est déjà sur la première place du podium en termes de prélèvement sur le capital et sur le travail. On va pas faire plus.
Ah, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. D'ailleurs, il se répète, le ministre. Moi, je me rappelle, il y a 2-3 ans, c'était ça, on le voyait à la tribune du Sénat dire les impôts, ça suffit. Bon, déjà lui qui était un peu responsable de tout ça, mais bon. Et donc là, il nous redit la même chose, mais fondamentalement, il n'a pas avancé. Et par ailleurs, sa pratique, si on regarde la dépense sociale, comme il l'appelle, moi je n'aime pas l'expression, mais celle de la dépense sociale. Alors tout le monde a compris, vous savez ce que c'était la shrinkflation, c'est-à-dire le paquet de chips diminue, mais le prix reste le même.
Mais le prix reste le même.
Bon, là c'est pareil, c'est la shrink qualité en quelque sorte, et donc du coup, les cotisations, les contributions restent les mêmes. La dépense sociale se contracte.
Et la qualité du service public en face s'effondre.
Mais ça, c'est pas vraiment une stratégie. C'est le problème qu'il a. Alors, on a parlé de la suradministration dans l'éducation nationale, mais il a un problème dans l'ensemble des dépenses publiques, hors dépenses sociales. Les dépenses sociales ont leurs propres problèmes. Ce sont des assurances, il faut les équilibrer, etc. Mais toute la dépense publique hors protection sociale, il faut la regarder. Mais et il ne nous dit rien là-dessus.
Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce débat sur les augmentations
taxation ou sur les baisses d'impôts et fasse finalement le débat le plus important, qui est le débat à avoir sur les réformes structurelles, qui sur ce qu'est l'État n'émergent pas du tout.
Complètement.
Sur ce qui est inefficace, les fonctionnaires ne sont pas par nature inefficaces. Ce qui est inefficace, c'est leur management. C'est la stratégie qui est poursuivie.
Bon, nous, voilà,
et donc ça, il nous dit.
Alors, c'est pas une question de casting, c'est une question de scénario.
30 secondes pour conclure là-dessus, Guillaume, effectivement. Voilà, le débat sur la.
Oui, mais de toute façon, enfin, qu'il y ait un problème d'efficacité de l'État en France, c'est clair. Hein. On a un appareil d'État qui a été construit par des généraux sur un modèle de l'armée verticale, etc. Ça fonctionne pas, et surtout, ça fonctionne de moins en moins.
Ça fonctionne donc, quand les généraux sont choisis sur le champ de bataille et pas comme étant les meilleurs, les plus forts en thème à l'école.
Oui, c'est ça, c'est les plus forts en thème à l'école qui sont sortis des beaux quartiers et qui vont dans les écoles privées que madame apprécie tant et qui connaissent rien au pays.
Ah, franchement,
quand ils sont, quand ils sont à la tête. On peut pas dire ça, Guillaume.
Si, écoutez, Emmanuel Macron, il a découvert la France quand il est devenu président, quoi.
À l'époque où il y avait des résistants qui étaient à la tête de la France, et je recite encore Pompidou, on était la meilleure performance en termes de productivité dans le monde. Hein.
Absolument.
Bah voilà.
Ah bah. Oui, mais très bien. Terminé sur cette note positive, on pourra mettre d'accord.
Ils n'avaient pas fait l'ENA, ils n'étaient pas passés tous par Janson, Stanislas et le.
Bon, il avait juste fait normal sup.
En tout cas, tout ça pour dire, Bruno Le Maire l'a encore répété ce matin. Pour la énième fois en autant de jours, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Voilà.
Voilà.
19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir.
19h34 sur BFM Business. On voulait dire un mot de cette proposition de loi très attendue sur l'attractivité. On en parle avec Nathalie Janson, Jonas Haddad, Guillaume Duval et Bruno Coquet. Donc ça a commencé à être examiné en commission à l'Assemblée nationale, hein, Guillaume. Proposition de loi pour renforcer encore l'attractivité de la place financière de Paris.
Bah oui. L'idée, c'est toujours de favoriser le financement de l'activité par le marché, de manière générale, d'accroître les capacités de financement depuis la France. Depuis la France. Écoutez ce que disait tout à l'heure le délégué général de Paris Europlace, Jean-Charles Simon, qui était avec nous sur BFM Business. Ah, on l'a pas, Jean-Charles Simon. Bon, nous faire un plaidoyer pour le financement par le marché. Voilà, la capacité de la France à financer elle-même de plus en plus d'activités, de plus en plus d'entreprises. Favoriser l'entrée en bourse, évidemment, de plus en plus d'entreprises. C'est un projet sain, ça fait partie d'un projet global. Si on l'a...
Allez, on écoute.
Allez, Jean-Charles Simon, 30 secondes.
Ça veut dire se donner les armes pour poursuivre la dynamique vraiment favorable, vraiment marquante, qui se passe depuis pas mal d'années en faveur du développement de la place financière de Paris. Et c'est très concret. Dans 5 ans, fin 2017, fin 2022, 20 000 emplois dans Paris, liés aux activités financières. Et ça va très au-delà du seul effet Brexit. Il y a un effet Brexit qui existe, qui est de la relocalisation d'activités de Londres vers l'Union européenne, et dont Paris est le plus grand bénéficiaire. Mais c'est aussi un mouvement plus global où il y a les bonnes conditions pour faire de la finance en France.
Et oui, Paris est devenue la première place financière européenne en termes de capitalisation boursière. C'est un vrai cocorico et donc il faut consolider cet acquis. Jonas Haddad.
Alors il faut consolider, à mon avis, sur deux piliers. Mmh. Le premier pilier, c'est évidemment le pilier boursier qui a été évoqué. Donc ça, c'est très bien que sur des dispositifs techniques, notamment lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des frottements juridiques, on puisse bouger. Deuxièmement, le projet attractivité contient notamment des sujets sur le capital investissement.
Oui.
Alors on a des très belle structure de capital investissement en France. Oui. D'ailleurs, on a besoin de les développer parce qu'il manque ce maillon de la chaîne parfois dans le financement. La seule difficulté qu'on peut avoir parfois, il faut se le dire, c'est que on a des cycles qui font que malheureusement, ces derniers temps, on a eu moins de levées de fonds. L'année dernière, tenez-vous bien, on a diminué de moitié le nombre de levées de fonds sur les entreprises technologiques en France.
Ça ne concerne pas que la France. Hein.
Non. Ça ne concerne pas que la France. Mais justement, c'est dans ces moments de crise dans lesquels il faut bien rebondir pour faire en sorte que quand ça reprend, parce que les fonds d'investissement notamment commencent à avoir maintenant les poches qui se sont bien remplies, au moment où ils vont devoir, entre guillemets, déverser cette manne financière, ça puisse se faire sur des start-up françaises, sur des entreprises françaises, sur des industries françaises, pour qu'au final, ce mouvement de relocalisation qui se passe notamment dans le pur financier ait lieu dans ce qu'on appelle le capital investissement, c'est-à-dire une partie financière et une partie d'économie tangible.
Projet Guillaume Duval, projet LOAP, ça veut dire la possibilité de financer des start-up qui iraient travailler à l'étranger, grossir à l'étranger, créer des emplois à l'étranger plutôt qu'en France.
De toute façon, on a un problème qu'on a déjà évoqué dans l'épisode précédent, qu'on a un excès d'épargne des Français. Il faut réussir à dégonfler un peu, notamment l'assurance vie et notamment le livret A, pour l'orienter davantage vers des investissements productifs. Donc tout ce qui va dans ce sens-là, moi je suis tout à fait d'accord. Il y a en particulier des dispositions sur les droits de vote multiples. Ouais. Je crois qu'effectivement, un des problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le capitalisme tel qu'il fonctionne, c'est que les actionnaires ont le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits de vote qu'ils s'engagent durablement au sein d'une entreprise ou qu'ils simplement papillonnent et qu'ils cherchent juste des plus-values à court terme. Donc là-dessus, le fait qu'on différencie en particulier les droits des actionnaires en fonction de ce type de choses, moi je suis plutôt pour et je pense que c'est favorable.
Donc un développement des entreprises et de leur financement qui doivent être accompagnés par un droit français compétitif avec des pratiques qui sont en fait hyper usuelles dans des pays comme les États-Unis. Nathalie Janson.
Oui, là on va quand même pas aller jusqu'à cette comparaison, je pense, parce que
non, déjà... mais enfin je pense c'est notamment enfin la facilité pour introduire les entreprises en bourse et puis aussi à la tenue à distance des assemblées générales,
oui, d'être ça, un peu plus flexible et moderne pour pouvoir pour pouvoir ouvrir plus de solutions, parce qu'effectivement après c'est un peu toujours le serpent qui se mord la queue dans le cas de la France, c'est-à-dire qu'effectivement c'est bien de mettre en place et d'attirer pour que y ait plus de d'activités financières. Mais d'un autre côté, si on a une appétence des Français en moyenne qui est assez faible pour le risque, eh bien, vous avez beau déployer tout ce que vous voulez, oui. Eux, ils n'y vont pas. Donc ça, alors après, effectivement, c'est le rôle des banques, du coup, d'y aller. Parce que si vous n'y allez pas et que vous laissez votre argent dans la banque, c'est à la banque de prendre cet argent clair. Pour, elle, éventuellement, le rebrancher sur le marché financier. Mais voilà, ça, c'est une limite. Et puis la deuxième, qui est mon cheval de bataille depuis longtemps, c'est que ça se passe mieux quand il y a des fonds de pension également. Parce que ça participe à animer le marché.
Ça va pas plaire à Guillaume.
Mais avant. C'est vrai. Le fléchage de l'épargne des Français vers le financement de l'économie, ça fait des années qu'on en parle, on n'a pas trouvé la martingale encore.
C'est le travail des banques, la transformation, comme on dit, c'est transformer de l'épargne liquide et à court terme. Voilà, eux, ils font autre chose. Donc, de l'épargne liquide et à court terme en investissement long. C'est quand même ça, toute l'affaire des banques, en théorie. Et alors, c'est pas la seule, mais bon, en tout cas, c'est à eux de faire ça. Et parce que le petit épargnant qui a le choix entre livret A et puis boursicoté, il ne s'est pas forcément boursicoté. Quoi. Donc,
on a un momentum.
Sur cette
l'IRPME qui a été maintenue, la flat tax, là on peut envoyer les gens vers
Bruxelles. Mais il n'y a pas beaucoup de réponses.
Il y a un point quand même sur cette loi, c'est qu'il y a une autre demande. Il y a des demandes sociales. C'est-à-dire qu'il y a un argument qui est de dire que ces industries financières vont créer des emplois, mais en même temps, elles demandent des facilités pour licencier. C'est-à-dire le plafonnement des indemnités du barème Macron en volume, parce que c'est des gens très bien payés, donc évidemment, lorsqu'ils sont licenciés...
Et ça, c'est une entorse quelque part au droit du travail.
Ah oui, mais une claire entorse au droit du travail, d'autant qu'en plus... Et il y a une deuxième chose, c'est sur les plans sociaux, c'est-à-dire le seuil des plans sociaux soit relevé de manière à ce que les obligations soient pas... Enfin, pour rentrer dans un plan social, il faille licencier plus de gens à la fois. Et donc, du coup, cette exception est un problème à tous les niveaux, à la fois parce qu'on s'adresse à des gens qui ont des salaires élevés, qui pourraient être payés
finance. On pense aux traders qui ont le beurre et l'argent du beurre, et donc un mécanisme peut-être adapté à un secteur en particulier.
Oui, mais leur rémunération pourrait être faite d'autre chose que de salaire.
On va jouer sur le variable pour le coup.
Enfin, non, parce que c'est limité par une réglementation européenne qui limite les primes variables à 100% du salaire, de 100% dans certaines exceptions. Alors, à juste titre, ce que dit Jean-Charles Simon, mais le projet de loi également, c'est que c'est une industrie cyclique. Mais justement, quand l'industrie est cyclique, les primes disparaissent. Donc, il n'y a qu'à fixer des salaires bas et puis de trouver... Parmi les mandataires sociaux, on trouve à les rémunérer, on trouve à rémunérer les gens avec des retraites chapeaux, des fonds de pension, des tas de choses qui échappent au salaire. Et donc, du coup, je pense que c'est peut-être aussi possible sans avoir à toucher au droit du travail.
Oui, et puis quand même sur l'attractivité de manière générale, Emmanuel Macron continue de parler de cette fameuse union de marché des capitaux au niveau européen.
Oui, mais si ça se fait, il faut qu'on soit en lead pour le dire en mauvais français. Parce que si ça le fait et qu'encore une fois on perd, alors on a la chance, c'est qu'on n'est pas battu par Francfort. Alors il y a un cocktail, on en parlait tout à l'heure hors micro, c'est vrai qu'à Francfort c'est un peu moins fun de vivre à Francfort qu'à Paris ou qu'à Luxembourg. Ça, c'est vrai qu'il y a d'autres choses. Et donc il y a l'effet Frexit, mais il y a aussi l'effet en quoi la France est belle et attractive. Il y a aussi de ça, il y a un effet magie.
proposition de loi arrivée aujourd'hui à l'Assemblée, donc pour accroître l'attractivité financière de la place de Paris. Alors sinon, il y a un sujet qui a fait beaucoup causer aujourd'hui, on voulait avoir votre avis là-dessus, c'est ce qui s'est passé devant l'Assemblée. Il y avait 600 salariés de SEB et des dirigeants aussi qui sont venus manifester contre une proposition de loi portée par un député écologiste, proposition qui vise à interdire l'utilisation de produits contenant ce qu'on appelle des polluants éternels.
Ah oui, et ça concerne beaucoup de secteurs, des cosmétiques aux textiles d'habillement, mais aussi, entre autres, des produits d'électroménager comme ceux que fabrique la marque SEB. Et son directeur général était dans la manifestation. Il l'a dit clairement, faire passer cette loi, ça pourrait jouer sur l'emploi. On l'écoute tout de suite.
Vous avez un certain nombre d'autorités internationales qui sont censées d'ailleurs protéger les consommateurs et les citoyens qui ont émis un point de vue scientifique sur ces sujets-là. Ce point de vue est balayé d'un revers de la main sur des questions d'amalgame. Ah oui, mais comme on ne sait pas, on va mettre tous les pifaces. Ben nous disons non, parce que nous pensons qu'il y a une autre manière de faire la loi qui fait appel à la science, qui fait appel à la concertation, qui fait appel à la raison et au bon sens. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui.
Oui, alors ça me rappelle le discours, les PFAS. Ça me rappelle le discours que les industriels avaient sur le sujet de l'amiante, en disant bah c'est pas si grave que ça. Et finalement, on s'est rendu compte de tous les dégâts que ça a fait sur la santé. Et puis on l'a interdit, mais bien trop tard. Est-ce qu'on n'est pas dans ce même déni, Guillaume Duval?
Écoutez, moi je suis pas un spécialiste, je suis pas un scientifique, mais ce que je constate, c'est qu'effectivement on a des problèmes d'infertilité de plus en plus important, de stérilité, de cancer, etc. Ces produits s'appellent des polluants éternels parce que effectivement ils se détruisent très difficilement dans la nature. J'aurais tendance à effectivement privilégier un peu la prudence sur ce type d'usage. Après, on en discutait aussi tout à l'heure. C'est vrai qu'on a vécu quand même pendant quelques milliers d'années sans toutes ces choses-là. On a réussi à faire la cuisine, mais...
On n'a plus le droit au barbecue non plus, donc...
C'est pas bon pour la santé, le barbecue.
Peut-être qu'on trouvera d'autres...
Oui, mais le problème, c'est que, en fait...
Si vous voulez, les industriels se plaignent toujours, et puis, quand on les force, ils finissent par trouver des substituts et des nouveaux produits. C'est une manière de doper, en fait, l'innovation, que de les pousser un peu...
Oui, c'est ça, mais est-ce qu'on n'aurait pas préféré entendre le directeur général de SEB parler de l'innovation et des innovations sur lesquels ils travaillent, plutôt que de dire « mais non, on s'accroche à ça, parce que finalement, c'est pas si dangereux que ça, alors qu'il y a des études contradictoires. »
Alors, ils innovent sans doute en coulisses.
La première chose, on peut avoir un consensus sur ce sujet. Si c'est bon pour la santé, il faut y aller, je veux dire, à un moment. Mais encore une fois, la science comme boussole. Deuxièmement, la réalité, c'est que si nous, c'est ça la vraie question pour moi, si nous le faisons, mais qu'à côté de ça, on peut avoir des poêles chinoises dans les rayons et qu'on n'interdit pas cette possibilité de le faire.
Alors justement,
la loi l'interdit. Monsieur Seb devrait être content.
Donc je pense qu'il faut faire un peu comme ce qui a été fait avec les pailles ou les choses comme ça, c'est de pouvoir mettre une clause qui permet d'éviter l'import de ces choses-là. Et donc, attention, et je termine par là, il faut quand même se dire que si on veut un moment montrer la voie, on a le marché européen, qui est le premier marché européen en matière de consommation, notamment sur ces questions-là. Et donc, vous avez le 9 juin des élections européennes, c'est des sujets sur lesquels on pourrait avoir des réglementations européennes. Parce que si on a, encore une fois, comme toujours, Non, pourquoi? Pourquoi ce procès d'intention? Si c'est bon pour la santé, vous savez, on est
Vous dites quoi, Guillaume?
Vous faites un peu maniqué, hein. C'est-à-dire qu'en gros, on est des méchants. C'est bon pour la santé.
Et au loup, s'il y avait des réglementations, c'est ça que vous voulez dire?
Mais qui, vous?
Non mais là pour une fois on a
Bruno Coquet.
On a une loi. Alors Monsieur Seb se gourde de combat en gros.
Mais oui, ce gourde de combat, on lui supprime sa concurrence puisqu'on interdit l'importation, on interdit la vente et on interdit la production. Et donc du coup, lui il se retrouve dans un
marché plus innovant.
Mais lui aussi il produit des boîtes
avec quand même un petit étonnement ce qui est
aussi produit avec à la base de PFAS aussi.
Oui, mais le problème c'est que moi ce que je comprends pas dans l'affaire c'est que bon très bien, Monsieur Seb pourrait en profiter, mais quand même c'est ce que demandaient les agriculteurs par rapport aux pesticides. Et on leur a expliqué que ça n'était pas possible parce que là, cette espèce de réciprocité ou d'interdiction au nom de raisons sanitaires en France des produits avec des pesticides, c'était pas du tout possible. Mais là, ça devient possible pour les poêles à frire. Et donc, du coup.
Les montants financiers et les enjeux ne sont pas les mêmes.
Audrey, est-ce que je peux être taquin?
Oui, mais la logique est la même.
Mais vous êtes là pour ça, Jonas.
Les députés écologistes souhaitent l'interdiction, et là, je vais reprendre mon chapeau de méchant, ils souhaitent l'interdiction des bifaces. Par contre, ce sont les mêmes qui, il y a quelque temps, ont fait une proposition de loi pour dépénaliser le cannabis.
qui, comme on le sait, est une substance et qui est excellente pour la santé. Vous voyez, en fait, quand l'idéologie
alors,
remplace le réel...
Alors, c'est une question
réel,
de volume. Je pense
ouais, bah,
que c'est...
Non mais, oui. Non, mais si la santé est votre boussole, vous ne faites
oui,
pas non, des...
Mais je pense que c'est justement c'est ce qui a énervé M. Seb. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est le, ouais, l'origine de la proposition.
Non, mais il est arrivé en mettant tout de suite voilà. Dans la balance l'emploi. Et
oui,
l'emploi,
mais parce que c'est le truc fastoche.
Bah, évidemment que c'est fastoche.
Il a surréagi à quelque chose qui l'a énervé, parce qu'effectivement, pourquoi ce combat-là et pas un autre? Et du coup, pour marquer les esprits, comme les autres ont marqué les esprits avec PFAS, c'est horrible, alors qu'il y a d'autres choses aussi horribles, quoi. Eh bien, il a dit, bah, vous allez voir ce que vous allez voir, il y aura un effet sur l'emploi. Enfin voilà, là, on est dans le théâtre, en fait. L'effet théâtre. Ce qui est effectivement dommage, parce qu'il aurait pu être beaucoup plus fin et effectivement lui dire ah ben, on est déjà en train de travailler sur des produits innovants ou j'en sais rien,
il aurait pu s'en sortir autrement.
En plus, oui, c'est sûr.
Oui, c'est ça, mais peut-être enfin, en tout cas, il ne l'a pas dit.
Oui, oui, mais c'est dommage.
Ils ont quand même réussi
à amener. C'est vrai que ce serait mieux si c'était une réglementation européenne qui s'appliquait déjà. Mais aujourd'hui, malheureusement, il est devenu quasiment impossible de faire adopter ce type de réglementation à l'échelle européenne. Madame von der Leyen répète tous les jours qu'elle veut moins de régulation, plus embêter les entreprises, etc. etc. Donc c'est pas dans l'air du temps, mais c'est vrai que ça ferait beaucoup plus de sens si c'était pris au niveau européen plutôt qu'au niveau
celle,
en France.
C'est pas, alors pour le coup, c'est pas Ursula, c'est les États membres. Oui. Quand quelqu'un dit non en Europe, c'est d'abord des États membres.
Vous avez raison.
Que, voilà, la Commission normalement propose.
Bon. La solution au niveau européen.
Il reste 4 minutes avant vos avis, donc je vais vous faire choisir. Vous voulez parler de TSMC ou vous voulez parler du classement Forbes? Voilà, on va voter. Qu'est-ce qui vous intéresse?
Difficile. On pourra pas choisir, c'est renoncer.
Le classement Forbes
de dernier classement Forbes qui est sorti aujourd'hui.
Des milliardaires.
On fasse le commentaire des milliardaires. Ouais.
Bon, classement Forbes.
Moi, je préfère sur TSMC si ça vous
dérange. Oui, d'un mot, allez. Alors, TSMC qui dit on a interrompu brièvement notre production de semi-conducteurs, ce qui inquiète la planète entière, tant la diminution de TSMC est forte aujourd'hui dans le monde.
C'est-à-dire que vous voyez en fait la dépendance aujourd'hui de l'économie vis-à-vis de la géopolitique, et vous voyez notre dépendance aujourd'hui vis-à-vis de système géopolitique que nous ne contrôlons plus. C'est-à-dire cette incapacité aujourd'hui qu'on a pu avoir à prendre le virage. Encore une fois, souvent on oppose l'industrie et les nouvelles technologies. Or, on voit bien ici que l'industrie, c'est les nouvelles technologies et vice-versa. Et notre retard en matière de capitalisation, de robotisation, a fait qu'on n'a pas du tout pu développer ce genre de processus. Évidemment, on n'a pas les matières premières.
Oui, alors sauf qu'en fait, avec une dépendance géographique qui est en train d'évoluer, puisqu'il y a des usines qui vont s'ouvrir aux États-Unis, au Japon et aussi en Europe.
Et le pire, c'est que sur les machines qui servent à faire ces produits sont en réalité des machines souvent européennes. Enfin, en tout cas, il y a une société néerlandaise qui est leader dans ce domaine. Donc, on devrait pouvoir effectivement. On s'inquiète. Limiter cette dépendance.
On s'inquiète de l'interruption de production de quelques heures, on ne se pose pas la question de savoir ce qui se passe si demain la Chine envahit Taïwan, ce qui est toujours une
question. Mais si, on ne se pose pas la question. Un orage solaire nettoie tout ça. Donc,
oui, donc on a les aléas climatiques, naturels et géopolitiques.
Mais le point, c'est que moi, je pense que le côté positif de l'affaire, c'est que les confinements divers et variés suite au Covid dans le monde nous ont permis de nous rendre compte qu'on était fortement dépendant à l'Asie de ces microprocesseurs.
Mais les Américains réagissent très vite. Intel qui accélère avec la bénédiction de l'administration américaine, mais l'Europe qui se met en ordre de bataille.
Les Européens aussi, puisque TSMC ouvre en Allemagne. C'est en Allemagne. Intel ouvre en Allemagne. En France, on a STM qui ouvre aussi.
Alors, après, oui, mais c'est acteur microscopique.
Il y a plus ces puces. Donc,
ASML, le gouvernement néerlandais est obligé de faire un chèque de 2-3 milliards d'euros pour qu'ASML ne délocalise pas massivement ses unités de production à l'étranger, en dehors d'Europe. Donc vous voyez, on est quand même un petit peu...
Oui, mais le point, c'est que moi, je pense que c'est un domaine où on a fait quelque chose. Alors peut-être on peut faire plus, peut-être on peut diversifier plus, peut-être qu'il faut une surcapacité pour se couvrir contre des incidents X ou Y, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a fait quelque chose dans ce domaine.
Bon, les Français ont beaucoup de ressources. Il faut voir Christian Louboutin, par exemple, qui vient de rentrer justement dans le fameux classement Forbes des milliardaires.
Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus toujours... faut toujours regarder sans doute vers l'avenir et se dire que, en effet, le Covid a quand même... eu le mérite de montrer qu'une dépendance
un peu trop forte, parce que bon, les dépendances, on les a, c'est le fait même de l'activité eux-même. On est toujours dépendants.
Non, mais sur les terres rares, principalement.
Mais oui, mais parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas non plus remplacer aussi facilement et qu'on ne peut pas avoir. Mais effectivement, oui, je pense que ça donne à réfléchir et peut-être que, enfin, je veux dire, le futur ne sera sans doute plus. Il y aura des stratégies certainement plus intelligentes que jusqu'à maintenant, parce qu'on s'est rendu compte de la limite des stratégies qu'on avait mises en place jusqu'à maintenant.
Bien, on n'aura pas le temps de parler du classement Forbes, malheureusement, et de Taylor Swift. Taylor Swift est entrée dans le classement. Bernard Arnault toujours
avec
en tête.
Avec Christian Louboutin, donc. Oui, c'est pas mal, c'est effectivement quand même.
Des Français qui rentrent, Christian Louboutin, effectivement, qui rentre. Bernard Chalès, le PDG de Dassault Systèmes, qui rentre dans le classement, notamment. L'extra time, donc, vos humeurs du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes, c'est la règle impitoyable de cette émission. Nathalie, est-ce que vous voulez commencer? Allez.
Oh, moi, oui, c'était juste avant le week-end de Pâques, j'ai trouvé ça très drôle comme histoire. Quand on dit que le système bancaire est hyper efficace et que les cryptos, ça sert à rien, on annonçait qu'en fait, certains n'allaient pas être payés avant le mardi parce que le vendredi était le vendredi saint dans certains pays et qu'à cause des activités bancaires, eh bien, on avait du J+4 qui allait se faire. Donc, c'était très drôle parce que, bon, finalement, en 10 minutes, on peut se faire un transfert de monnaie en crypto. Donc,
voilà.
C'est sûr que c'est vraiment très archaïque comme système.
Ben voilà, l'économie peut aussi nous faire rire. Bruno Coquet, c'est à vous.
Le président de la République a proposé un passerail l'automne dernier.
Oui.
Et le passerail ne va pas se faire. Donc pourquoi? Parce qu'on est au débat autour de 45 euros, tout ça. Moi, ce qu'on connaît depuis longtemps, c'est la carte Interrail qui nous a permis de. Mais oui, mais qui existe toujours. Pour 250 euros, on peut voyager dans l'Europe entière. Alors c'est un peu compliqué pendant 7 jours, etc., prendre le train dans certains pays, mais pas d'autres. Mais en tout cas, on peut voyager largement en dehors des frontières. Mais à l'intérieur de la France, on n'y arrive pas. Donc ça, je pense que c'est quand même un grave souci.
Bah, tout le monde n'est pas d'accord du côté des régions, apparemment. C'est ça.
Oui,
le résultat est le même. Guillaume Duval, allez, c'est à vous, on vous écoute. Oui, 30 secondes, Guillaume.
Moi, j'ai surtout été très choqué par ce qui s'est passé ce week-end à Gaza. C'est vrai que c'est pas un sujet très économique, mais je pense que ça risque malgré tout, enfin, l'inaction des pays occidentaux, de la France, de l'Europe, par rapport à ce conflit, risque d'avoir des conséquences très lourdes pour notre avenir, y compris sur le plan économique.
Voilà pour le gueule ce soir de Guillaume Duval.
Jonas Haddad pour clore le bal.
Jonas.
Alors oui, moi c'est l'utilisation de mots qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et je reviens sur le mot rente. Je n'aime pas que le débat politique confisque des mots. Ce n'est pas une rente que de mettre un peu d'argent pour ses enfants sur le livret A. Ce n'est pas une rente que de mettre un peu d'argent pour une assurance vie lorsque vous avez un conjoint et que vous ne voulez pas vous faire étrangler fiscalement. Et non, ce n'est pas une rente de percevoir un petit loyer lorsqu'on est un petit propriétaire. Arrêtez de tordre les mots pour tordre la réalité.
De la même manière que je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse dire que EDF soit rentier vu l'ampleur des dettes.
Et non, et surtout vu ce qu'on leur a fait subir avec la REM.
Aussi.
Non, mais on sent bien que c'est du côté des énergéticiens. On sent bien que c'est du côté des énergéticiens qu'on va encore aller chercher quelques millions. C'était quoi la ronde sur les énergéticiens? 300 millions, voilà ce qu'on a récupéré.
Sur les énergéticiens,
600 millions.
3 milliards au lieu de 12. Sur les rentes inframarginales.
Ah, sur les rentes inframarginales.
Mais vous savez, on serait en train de débattre de comment on taxe les super profits encore plus si on n'avait pas détruit notre filière nucléaire. Hein. On serait aujourd'hui les rois de l'énergie et les rois du pétrole.
Et puis il y a un peu de marché européen d'électricité là-derrière.
Ça sera le prochain sujet du prochain débat.
Oui, parce que nous sommes au bout, malheureusement. Merci beaucoup d'être venus, tous, toutes et tous. Nathalie Janson, Bruno Coquet, Guillaume Duval et Jonas Haddad. Merci à tous les quatre. À très vite avec plaisir pour de nouvelles aventures. 19h55, bah oui, c'est fini.
Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Ceci dit, pas de panique, puisque si vous voulez retrouver ce débat, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code en replay. Sinon, c'est sur les plateformes, sur bfmbusiness.com. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir.
Absolument, demain soir, 18h-20h pour Nouvelles Aventures. Dans un instant, Tech & Co, spécial AWS Summit. C'était aujourd'hui porte-maillot à Paris. Vous allez retrouver bien sûr François Sorel et toute son équipe. Et on se retrouve nous demain soir, évidemment, 18h. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.